Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 36 de ce lundi 21 février. Avec nous, les gars de la presse qui sont là. Guillaume Lefrançois qui est avec nous. Salut, Guillaume.
Salut, JR.
Nous avons Simon-Olivier Larange. Salut, Simon-Olivier.
Salut.
Également pour le 98.5 FM, Stéphane White qui est là. Salut, Stéphane.
Bon début de semaine, les boys.
Messieurs, aujourd'hui, on va se parler d'une multitude de choses. Je sais pas comment vous avancez ça. T'sais, le but, honnêtement, on peut pas à tous les jours se mettre à tapocher sur le Canadien, mais des fois, on n'a pas le choix, honnêtement.
On va faire pareil.
Pourquoi s'en passer?
Pourquoi se priver de ce plaisir? Mais tout ça pour dire, c'est que il y a quand même des gens qui sont positifs. Il y a Bob Gainey qui était au tournoi Pee-Wee de Québec qui a dit que le Canadien, dans un an ou deux, devrait être des aspirants pour la Coupe Stanley.
Quoi?
Et c'est sorti. Fait que donc, on va en parler un petit peu plus tard. On va se parler de Morgan Riley, qui a trouvé comme idée, sublime idée, d'y aller d'un double échec en plein visage d'un joueur des Sénateurs d'Ottawa, parce que ce dernier avait été arrogant, marqué dans un filet désert. D'ailleurs, il va comparer devant le comité de discipline de la Ligue nationale de hockey. Quand on enregistre le balado, la décision n'est pas rendue encore, mais on va parler de ça. Mais pour débuter, parlons de nos glorieux qui n'ont pas été si glorieux que ça ce week-end. Défaite de 3-2, ça s'est passé samedi face aux Stars de Dallas. Défaite, c'est un touché pour les Blues de Saint-Louis contre deux petits points pour le Canadien. 7-2, cette défaite face aux Blues de Saint-Louis. Avant toute chose, OK? Avant qu'on sorte le marteau et qu'on tape sur le clou, là. Juste dire, il y a un point qui est positif. Nick Suzuki a été nommé première étoile, pas troisième étoile de la semaine dans la Ligue nationale de hockey. Lui qui a récolté 4 buts 2 passes en 6 points. Je pense que j'ai juste le goût de faire commenter. Juste ça va être la fin. Oh, Guillaume, commente-moi ça. Là. Vas-y.
Je salue ton optimisme.
J'essaie, je travaille fort.
Ben, ce qu'en fait, ça dit surtout le manque de profondeur du Canadien, si on veut. C'est-à-dire que l'attaque passe entièrement par Suzuki et ses amis Caulfield et Slavkovski. Donc, je vous dis oui, tant mieux pour Nick Suzuki, tout ça. Et c'est encourageant de voir ces jeunes alliés comme qui se reprennent après un début de saison difficile, mais ça reste que, disons que ça ne règle pas le problème global de production offensive du Canadien.
C'est fou quand même parce que je me suis souvent dit, quand Nick Suzuki fonctionne bien, habituellement le Canadien connaît de bons matchs, trouve le moyen d'aller gagner des matchs. Là, il fonctionne bien, puis quand même, le Canadien ne gagne pas. Trouver l'erreur, mais...
Ben, c'est qu'il n'y a personne d'autre qui produit de l'attaque.
Bon point, c'est... ça, j'aime l'analyse.
Quiconque ne s'appelle pas Nick Suzuki ou ne joue pas sur le trio de Nick Suzuki depuis déjà quelques semaines. C'est l'absence totale là, de production offensive. Il y avait Sean Monahan et il n'est plus là. Juraj Slafkovský a eu des bons moments en avantage numérique et dans les dernières semaines, même s'il avait été séparé de Suzuki. Là, il y a eu des points récemment avec Suzuki. Caulfield aussi, mais dans le reste de la formation, je pense qu'on peut penser que ça va bien aller pour Alex, ça pourrait mieux aller avec pour Alex Newhook, qui a eu un bon retour en fin de semaine. Mais après ça, c'est pas mal ça que c'est.
Je regardais tantôt parce que bon, Slavkovski, ça présente séquence de succès. On peut dire que ça a commencé à la mi-mars. Mm-hmm. Donc je regardais les statistiques du Canadien.
Je sais que tu veux que ça finisse la saison, mais pas si vite.
Déjà 11 mois que ça va bien.
À la mi-décembre. Et donc, je regardais le classement des compteurs du Canadien depuis la mi-décembre. Alors, tu as Suzuki, 25 points en 23 matchs. Caulfield, 21 en 23, ça va. Ensuite, Matheson, un défenseur, 19 en 23. Ensuite, Monahan qui est parti. Ensuite, Slavkovský, 17 en 23. Et après ça, tu tombes à David Savard, 9 en 23. Et Josh Anderson, 8 en 19. Alors là, c'est là que ça tombe à une vitesse complètement folle, justement, la production depuis la mi-décembre. Donc, ça rejoint ce qu'on dit sur le manque de profondeur de l'équipe.
Bon, Stéphane, là, je te laisse parler. Il faut que tu sois positif. Là, on vient de parler de Josh Anderson. Juste ça me ferait partir pour un sujet à peu près 45 minutes. Mais je te laisse aller. Vas-y, Stéphane.
Non, mais écoute, c'était dans cette période de misère. Écoute, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est le trio numéro un. Écoute, c'est une bonne nouvelle parce qu'on peut vraiment affirmer que c'est... Puis je dis pas qu'ils sont rendus là. Ils sont pas rendus dans l'élite de la Ligue nationale comme trio. Mais ils s'en vont vers ça. Et ça fait... Je me souviens pas la dernière fois que le Canadien a eu un vrai premier trio de la Ligue nationale. Je parle un vrai bon premier trio. Et moi, dans les 8 saisons, j'étais avec le Canadien, on n'a pas eu. On a eu le duo Desharnais Pacioretty avec à peu près tout le monde qui ont joué avec eux autres. Et puis, je pense pas que c'était un vrai premier trio de la Ligue nationale. On a eu le trio de Tatar, Dano et Gallagher, qui était notre premier trio pendant presque 3 ans. Et encore là, je crois pas que c'était un vrai premier trio d'une bonne équipe de la Ligue nationale. Et là, enfin, on a ces trois-là. Ils sont pas rendus, comme j'ai dit tantôt, mais ça, c'est positif de dire, gars, pour la première fois depuis je sais pas combien d'années, ils ont le potentiel d'être un bon premier trio, mais surtout ces trois joueurs qui sont jeunes, en bas de 25 ans et moins, la moyenne de ce trio-là d'âge est 22 ans, mais surtout ces trois joueurs qui sont complètement différents, donc qui se complètent bien. Ça, c'était très intéressant, puis c'est le point positif du Canadien depuis le retour de la pause.
Peut-être qu'à l'époque, vous n'aviez pas de premier trio, mais vous aviez plus de profondeur sur le trio 2, 3 et 4.
Oui,
et c'est
oui,
peut-être
oui,
l'inverse
oui.
aujourd'hui, c'est qu'on a un premier trio, mais oui. ben après, c'est bon, bon, bon.
Après ça, c'est mort.
C'est plus calme.
C'est là, ça, mais en fait, il y a toujours, faut toujours se rappeler que Kirby Dock va avoir manqué 80 matchs et deux tiers cette saison. Fait qu'il y aurait eu, puis que Alex Newhook a quand même manqué déjà 27 matchs cette saison. Fait qu'il y aurait eu plus de profondeur cette saison. C'était d'ailleurs le thème un peu à l'issue du camp d'entraînement, alors que Sean Monahan sur un troisième trio, ça ressemblait à une équipe avec un peu de profondeur. Mais là, dans la réalité du 12 février 2024, avec les 30 matchs à disputer, c'est une équipe qui n'a absolument aucune profondeur qui va affronter ce dernier tiers-là.
Les dernières conférences de presse de Kent Hughes, écoute, je pense que si on le voit, il le voit eux aussi et a dit que, écoute, ça, il lui faut qu'il s'attaque à partir de l'été prochain, au manque de profondeur à l'attaque. Puis ça, c'est clair et net. C'est de la défensive, on a eu aussi de la lumière au bout du tunnel avec beaucoup de prospects. Puis là, j'insiste sur le mot prospect parce que tant qu'ils ne sont pas établis dans la Ligue nationale, c'est une projection. On pense qu'il va être bon, mais ça, c'est une autre affaire. Mais à l'attaque, là, vraiment, là, on a un gros manque de profondeur et c'est là-dessus que Kent Hughes doit s'attaquer dans les prochains mois.
OK, dans les prochains mois, la profondeur à l'attaque sera un enjeu. À court terme, la profondeur en défensive va être un enjeu aussi parce que des blessés, il y en a eu dans le dernier match. Entre autres, Jordan Harris qui s'est fait ramasser. Et puis rapidement, Joseph Guillaume avant qui dit « T'as pas sûr que Samuel Blais méritait une pénalité majeure sur la séquence? » Moi, je pense qu'il aurait pu l'éviter, honnêtement. Mon point de vue, j'ai donné ton point de vue, j'en vois mon avis. Tu penses-tu que c'est une majeure?
Non, je te sais, c'est un peu maudit parce que le coup à la tête est là. Puis en fait, le règlement dit que si, en fait, je vais prendre séparément la majeure et la punition de match. Une punition majeure assortie d'une blessure à la tête ou au visage, c'est automatiquement une punition de match. Fait que c'est un peu, ils ont suivi le règlement, ils ont été conséquents. Le fait que Harris tombait avant que Blais arrive, c'est ça qui serait une circonstance, je veux dire, atténuante, là, malgré que au point où on en est, on sait qu'Harris est mal en point. J'étais surpris de la majeure, mais voyant la conséquence, puis voyant la séquence, j'aurais pas voulu être celui qui prend ce call-là. Fait que,
qui dit, c'est juste même pas de pénalité ou quoi que ce soit. Écoute, il se fait chahuter. Stéphane, comment t'as vu le jeu?
Une punition, évidemment.
Moi aussi, j'ai tout surpris un peu de la majeure parce que, écoute, là, c'était un petit peu de malchance là-dedans. Là. Blais s'était compromis à le frapper, puis là, juste avant, Harris perd l'équilibre. Donc, tu sais, c'est difficile pour Blais d'arrêter, de dire, oh, là, non, ça va tellement vite. Mais écoute, moi, je t'ai convaincu que c'était un 2 minutes. Et puis, je t'ai convaincu que c'était un 2 minutes, mais que j'étais surpris un peu. Et puis, écoute, il y a un peu de malchance là-dedans. Puis, je pense pas que Blais avait pas de mauvaises intentions là-dessus. Là.
Bon, donc, Jordan Harris qui quitte le match. Caden Goulet en fin de rencontre sur une mise en échec qui avait de l'air passablement correct. Ouais. Marco Scandella qui s'amène.
C'est Scandella, justement, c'est pas un joueur.
Contact physique, on s'en va dans la bande, finalement. Problème, j'ose croire, avec l'épaule. Ça ressemblait à ça.
Ça ressemble beaucoup à la saison dernière, quand il a été blessé à Anaheim. C'était dans la semaine de relâche. Là. C'était juste avant, c'était justement à la date limite des transactions, qu'il avait reçu une mise en échec de Maxime Comtois, je pense, qui était même jeu, là, une mise en échec assez banale et il avait été blessé à l'épaule. Et on l'avait, je crois, pas revu de la saison. Alors, je sais pas s'il y a un historique à cette épaule-là, ou je sais pas, je me souviens pas par cœur si c'est la même, là, mais c'était aussi, on peut dire, c'était en fin de match, fait que peut-être qu'on a vraiment voulu préventivement
la façon qu'il tenait son bras.
Ça semblait douloureux. Ça semblait médical et douloureux.
Exact.
C'est médical
voir,
et ça fait mal.
Attendons de voir aussi si c'est bien l'épaule, parce qu'il y a des moments, on dirait qu'il se tenait plus la main qu'autre chose. C'est le bras. Allons-y pour le bras pour le moment. Mais effectivement, de la façon qu'il tenait, se tenait, je trouve que c'est de mauvais augure. Mmh.
Steph, honnêtement, il va falloir trouver quelque chose parce que là, on fait quoi? On rappelle Mayu? On rappelle qui sinon?
Baron.
Tu rappelles Baron qui est là? Tu
Baron, je pense, mais il faut faire attention avec les rappels. Puis ça, ça va devenir un problème parce que peut-être que le Canadien, on ne fera pas les playoffs, mais je pense que c'est important de tout faire pour que le Rocket fasse les séries. Et puis, moi, quand j'étais à l'organisation du Canadien, ou même à Chicago, c'était très important que nos clubs écoles fassent les séries parce que c'est des grosses minutes que les jeunes vont chercher dans des matchs où on joue du vrai hockey, des séries, justement. Et puis, donc, c'est un problème, les blessures dans le sens où tu vas affaiblir le Rocket. Fait qu'il y a aucun doute là. Mais j'aimerais voir un petit peu tout le monde. C'est l'occasion pour l'état-major de voir un petit peu tout le monde. Tu peux rappeler un Baron, donne-lui quelques matchs. Après ça, on renvoie quelqu'un. Ça peut être un Jack Eye qu'on renvoie parce que là, si on le fait pas jouer, ça m'inquiète ça, à Montréal. On le sort, on le rentre dans le line-up.
Moi, je pense que tu le fais plus troublé que d'autres choses.
Ben là, oui, je pense qu'il va jouer.
Exactement.
Je pense que par la force des choses,
il va jouer. Il va jouer. Mais ça sera l'occasion de faire monter des gars pour une coupe de match et des renvois à Laval. Je pense à des Rois qui est ici en ce moment. Après ça, une coupe de match, tu peux le renvoyer. Tu ramènes peut-être Farrell, une coupe de match. Voir où ce qui est rendu. Heinemann, il donnait une autre chance. Voir, OK, parce qu'on fait prendre des décisions sur ce genre de gars-là éventuellement. Donc, c'est l'occasion de se dire, OK, on te donne 2-3 matchs, on te retourne. Peut-être un mi-sac, un Baron, un Mayu, quelques matchs, mais sans dire, gars, là, c'est tout ta job, c'est d'amener Laval dans série, mais on peut te monter pour 4 matchs, un all-in there. C'est l'occasion d'essayer un petit peu tout le monde, mais surtout de pas trop faire mal à Laval, parce que c'est important que cette équipe-là fasse les séries.
Quel heureux hasard, j'étais à l'entraînement du Rocket de Laval ce matin. C'est quoi les chances?
Tout est dans tout.
C'est notre budget, on t'a envoyé là.
Mais on avait un correspondant à Washington, c'était Guillaume. Maintenant, on avait un correspondant aujourd'hui à Laval.
Exactement, la grosse carte opus chère des trois zones qui fait. Pour Norlinder, je suis désolé pour les partisans qui voulaient le voir, il est blessé. Alors, ce ne sera pas lui cette semaine.
Voilà.
Il s'est blessé lors du deuxième match des deux matchs consécutifs à Toronto. Et il n'était pas à l'entraînement ce matin. Je ne sais pas s'il va manquer beaucoup de temps, mais ce ne sera pas lui, l'heureux élu. J'ai l'impression que la logique, ce serait Justin Barron, parce que Kaelin Goulet jouait sur le flanc droit. Il manque un droitier.
Il y a juste deux droitiers en santé.
Je serais très, 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 très surpris qu'on fasse jouer Arber Jacky à droite, alors que c'est déjà assez compliqué à gauche. Il n'a pas été du tout bon contre les Stars de Dallas au point où il n'a pas joué dimanche. Et comme a dit Guillaume, je pense que là, il va jouer sur une base régulière. Alors là, avec le calendrier des prochains jours du Canadien, comme je disais, la logique, ce serait Justin Barron. C'est un gars qui a l'expérience de la Ligue nationale, qui peut arriver, qu'on installe en formation, puis c'est pas compliqué. Je suis curieux de voir est-ce qu'on donnera une chance à Logan Mailloux, qui est possiblement qui est clairement le joueur le plus hot du Rocket présentement et un des défenseurs les plus hot de la Ligue américaine. Il est à 2 points du sommet des défenseurs de la Ligue américaine pour les points. Il a 32 points en 45 matchs. Son différentiel est revenu à 0. Il est descendu jusqu'à moins 11 en début de saison. Ça va très, très bien pour Mailloux. Son entraîneur avait que de bons mots pour lui sur l'évolution de son jeu défensif, justement sur la maturité qu'il a déjà gagné cette saison en quelques mois. Donc, je serais pas surpris si on lui donne une chance. Et on n'a pas beaucoup parlé de lui cette saison, mais William Trudeau, qui serait pas une solution pour le flanc droit, mais si on voulait rappeler deux défenseurs, on pourrait rappeler un gaucher. Et Trudeau, lui aussi, à l'image de l'équipe, il a eu un très bon début de saison. Même il disait, lui-même, moi, je l'ai interviewé tantôt, il disait que la deuxième année, il l'a trouvé plus difficile qu'il pensait, ou la deuxième année professionnelle. Et là, ça va beaucoup mieux pour lui. Lui aussi, il est question du travail dans sa zone. Il a ajouté l'infériorité numérique à son jeu cette saison. Et ce serait, comme disait Stéphane, là, c'est le temps peut-être d'essayer des choses parce qu'on trouvera pas cette saison-là pour le Canadien. Et si ça va au mérite, Jean-François Houle était très enthousiaste à propos de William Trudeau. Il disait que certainement, il devrait être dans la conversation pour un rappel.
Ah, écoute, je trouve ça intéressant parce que, Stéphane, tu l'as mentionné, tant qu'à faire des tests, évalue ton personnel présentement, puis on verra la suite des choses. OK.
Oui, puis tu sais, j'allais juste ajouter là-dessus, on évoquait tantôt le fait que ça pourrait affaiblir le Rocket, par contre. Et tout à fait. Puis moi, personnellement, j'ai un peu cheminé aussi là-dessus. C'est-à-dire que, par le passé, les années passées, je disais tout le temps, aussi bien prioriser le Rocket, justement, et pas trop affaiblir le Rocket, puisque eux ont des chances de participer aux séries, d'être dans la course aux séries. Cela dit, je pense que c'est important d'y aller au mérite, ce que tu mentionnais, pour le message que t'envoies à ton organisation. Parce que là, après ça, si tu te mets, si les rappels se mettent à être faits en fonction de faire le moins mal possible au Rocket, ça envoie un drôle de message. T'sais, oublions pas qu'un rappel, là, pour beaucoup de ces joueurs-là, ça veut dire aussi que ta paye augmente x8 à peu près. Donc, tu sais, je veux dire, si t'es là, t'es avec le Rocket depuis le début de l'année, tu fais ton, tu te forces, tu fais tout ce qu'on te demande, t'es productif, puis là, ben, arrive la journée où ça doit payer, puis on en rappelle un autre plutôt que toi. C'est ça. Ça s'envoie pas des bons messages dans l'organisation. Donc, regardez, c'est sûr que de perdre Mayu pour le Rocket, ça ferait mal pour quelques matchs, mais c'est lui qui le mérite, c'est lui qui joue le mieux, ben, ainsi soit-il.
OK, j'aimerais qu'on rajoute, il a dit aussi Will Trudeau. OK, fait que rajoute
aussi,
Will Trudeau.
Aussi William Trudeau.
C'est le gars que je connais, là, je voulais dire.
Ton
gars.
Autre fils, on peut l'appeler comme ça.
Le gars, il continue non-stop. OK, hey, là, les gars, on a étiré notre corde sur le positivisme. Là, je vais vous parler de Jake Allen. OK, Jake Allen, c'était un match... je vais vous laisser le qualifier, mais dans cette défaite-là, il a été pris un peu en dérision par les partisans, fait un petit arrêt de routine, un peu à la Patrick Roy. On s'est mis à l'applaudir.
La foule a fait comme avec Patrick Roy. Jake Allen n'a pas fait comme Patrick Roy. Okay,
prenez tous les mots que j'ai dit.
C'est important.
Il y avait une phrase complète en quelque part là-dedans, mais tout ça pour dire on s'est moqué de Jake Allen, de la façon que ça s'est passé au Centre Bell. Je vous donne la phrase suivante et vous la complétez. Je commence avec Guillaume. Jake Allen est 3 points complète.
Ben très platement en difficulté. Ça franchement c'est probablement c'est lui. S'il y a une victime du système à 3 gardiens, c'est lui parce que Montembeau a une charge de travail quand même très correcte pour là où il est rendu dans son cheminement. Kaden Primo, c'est pas idéal. Là, en ce moment, il y a un petit peu moins de travail à cause qu'il y a eu la semaine de relâche là, qui l'a ralenti. Mais bon, avant ça, s'en tirait quand même pas trop mal. Mais Jake Allen, lui, ça ne va pas du tout. Cela dit, bon, je lisais qu'il y avait quand même beaucoup de recruteurs au Centre Bell au match d'hier. Donc, tu sais, est-ce que ces recruteurs-là ne vont prendre que ce match là du dimanche après-midi comme évaluation d'Allen, là, évidemment que non, sauf que tu sais il commence à y avoir un certain échantillon inquétant, disons là, donc je veux bien croire que c'est un vétéran de plusieurs saisons, qu'on se fiera pas sur une seule performance ou deux, mais là à la longue ça commence à être un volume de travail qui est inquiétant pour lui.
Donc Jake Allen est en difficulté selon Guillaume. Simon Olivier, Jake Allen est...
Je vais reformuler un petit peu parce que je veux pas que ce soit dirigé vers la personne, mais je vais dire le cas de Jake Allen est problématique parce que est problématique pour l'organisation. Qu'on comprenne bien, Jake Allen n'est pas un problème d'organisation. La personne, c'est un joueur qui est adoré dans le vestiaire et par la direction. Tout le monde, il est important en tant que personne dans l'organisation, en tant que gardien de but, que ce soit pour aider son équipe ou pour aider son DG à l'échanger, c'est un problème parce que présentement, il y a rien qui fait qui sert bien qui que ce soit. S'il gagnait des matchs, ben probablement que l'équipe pourrait réussir à l'échanger, convaincre un autre DG de dire ben, regarde, je vais garder la moitié du salaire, etc. Mais là, non seulement il perd des matchs, ce qui est tel que tel quand tu regardes la qualité de la défense devant lui, mais à mes yeux, le match contre les Blues de Saint-Louis, qui était quand même le 52e de la saison du Canadien, c'est la pire performance d'un gardien cette saison du Canadien. Il y a 4 mauvais buts peut-être dans ce match-là. Il rate complètement son jeu après 25 secondes. Sur le but de Toropchenko. Il a donné des retours. Il n'était pas capable de maîtriser un seul retour dans ce match-là. Le but qu'il a fait 4-1, qui était un arrêt, peut-être pas de routine, mais qu'il aurait pu faire. Le but qui à la fin, en fin de match, c'est une malchance, mais tu sais, le but qui frappe sur la bande, puis après ça lui tombe dessus. Ben, c'est clairement, il y avait, tu sais, Martin Saint-Louis a dit qu'il y avait une mauvaise journée au bureau, mais il y a eu plusieurs mauvaises journées au bureau dans les dernières semaines. Il a donné beaucoup de mauvais buts dans les dernières semaines. Et je faut jamais dire jamais, malgré qu'il y a encore, on l'a répété souvent, des bonnes statistiques à 5-5 qui vont commencer à être moins bonnes si on continue de donner 7 buts par match. Mais malgré ça, je pense que ça va devenir vraiment compliqué de l'échanger au cours des prochaines semaines.
OK, donc Simon-Olivier, tu dis le cas de Jake Allen est un cas problématique. Stéphane White, Jake Allen est, complète la phrase?
Meilleur que ses stats. Et puis, meilleur que ses stats. OK, on regarde les stats, là. Dans les gardiens de but qui ont joué au moins 18 matchs cette saison dans la Ligue nationale, il est 49e sur 50. Il y en a 50 qui ont joué au moins 18 matchs. Il est 49e au niveau de la moyenne de buts contre. Ça, c'est terrible. Une équipe qui regarde seulement les stats du haut, on touche pas à lui. On a sûrement d'autres choses de meilleures de disponibles. Mais c'est de là l'importance de venir le voir jouer. Et puis là, je parle pas du match d'hier. Hier, là, il a joué comme un gardien de but qui se faisait 15 jours qu'il n'a pas joué. Et puis c'est exactement mon dernier départ, il y a 15 jours contre Pittsburgh. Il avait l'air rouillé, puis il était rouillé, puis oui, il n'a pas été bon. Et puis oui, je suis d'accord, c'est probablement la pire performance d'un gardien de but du Canadien cette saison. Et moi, j'ai coté tout le temps après chaque match de 1 à 10. 10 étant la meilleure note. Et puis, j'ai donné un 3 hier. Puis c'est très rare, je donne un 3 à un gardien de but. Et puis, il y a 4 buts pour moi qu'il n'a pas été vraiment, là, le terme en anglais, il n'a pas été sharp. Il n'était pas sharp physiquement, techniquement, puis mentalement. Mentalement, même la malchance qu'on appelle le but qui a touché la bande qui est revenu vers lui, mais c'est... Il n'était pas sharp là-dessus pour revenir au poteau de la bonne façon. Il était très un petit peu nonchalant là-dessus. Donc, c'est un match très difficile. Mais il reste que c'est un gros problème, un cas problème pour l'organisation. Mais je reste encore convaincu. Parce qu'on dit qu'il est en difficulté. Oui, hier a été pourri. Mais j'avais aimé ses 3 derniers départs avant la pause, même s'il y avait seulement une fiche d'une victoire, une défaite et une défaite en prolongation. Il avait été bon dans les 3 matchs, spécialement contre Colorado qui a battu et contre les Pingouins qui ont perdu en overtime, il aurait été très bon. Donc, j'avais aimé ses 3 derniers matchs avant ça. C'est pour ça que je dis meilleur que ses stats l'indiquent. Et je suis une autre équipe. J'ai encore confiance en Jake Allen, dans le sens que, puis je parle de Jake Allen pour la profondeur, là. Je parle pas d'un Jake Allen pour numéro 1, là. Mais si je suis un club comme Edmonton, je m'en vais dans les séries ou en fin de saison, et puis Stuart Skinner, qui est un des bons gardiens de but depuis le changement d'entraîneur dans la Ligue, se blesse. Mais là, t'es pris avec Calvin Pickard. Là, t'es dans le gros trouble. Même chose à Los Angeles. C'est un des... Talbot est blessé, t'as Rittich, même si je sais qu'il va bien, mais je crois pas qu'il est meilleur que Allen. Et ça pour dire qu'il doit avoir quand même une certaine valeur si tu le regardes jouer. Si tu regardes avec ses stats, tu dis, oh my God, quelle saison terrible. Donc, écoute, j'essaie de... je peux comprendre la situation d'Allen. 15 jours sans jouer, il joue avec une équipe qui est tout croche devant lui. Ses stats le font très mal paraître. Et puis, mais il reste que c'est un mot juste. À un moment donné, on nous a quasiment fait à croire que le ménage à 3, ça marchait. Pas vrai. Impossible. Il n'y a pas personne qui venait pas me dire que ça marche. Ça marche pas. Il y a tout le temps au moins un des 3 qui paye le prix pour le ménage à 3. Tout le temps. C'est impossible à long terme. À court terme, on peut se débrouiller. À long terme, oubliez ça. N'est pas me faire à croire que ça peut marcher et que le ménage à 3 fonctionne. C'est pas vrai.
J'ai l'impression que le ménage à 3, puis comme j'insiste, c'est une impression qui reste 3 semaines. C'est-à-dire que d'ici la date limite des transactions, meilleur scénario, on échange Jake Allen et effectivement, ça devient un ménage à 2. Tu sais, Kaden Primo, ça fait presque un mois qu'il n'a pas joué. Puis logiquement, il devrait affronter les Ducks d'Anaheim mardi au Centre Bell. En fait, il faut que ce soit lui. Et selon de ce qu'on comprend, il n'a pas été, il n'était pas l'adjoint contre ni contre les Stars, ni contre les Blues. Ça veut dire qu'il a travaillé fort avec Eric Raymond pendant ces journées-là. Exact. Donc, ce serait son tour de jouer. Ça fait presque un mois qu'il n'a pas joué. Je verrais une logique à ce qu'on ait dit à Primo. Regarde, il faut être encore patient, le temps de faire jouer Allen, c'est la date limite de transaction, et qu'après la date limite, même si Allen est encore là, que Primo ait plus de matchs et qu'Allen joue peut-être pas plus du tout, mais beaucoup moins.
Moi, je vais vous avouer, là, je trouve ça dommage la situation des 3 gardiens de but, parce qu'en plus de complexifier la tâche de Martin Saint-Louis comme coach, parce que là, tu manques d'effectifs par moment, je trouve que tu tires dans le pied avec Jake Allen. Tu veux être capable d'en faire une monnaie d'échange, mais tu ne lui donnes pas la possibilité de bien performer en enlevant des rotations, que ce soit dans les entraînements ou dans les possibilités de match. Mm-hmm. Puis après, on le regarde, puis le monde, il chahute ou il rit de lui. Hey, écoute, ben là... Ouais. Tu sais, je veux dire, Kent Hughes, là, il a beau dire que c'est difficile d'échanger les gars, mais c'est lui le responsable de la situation qu'on a présentement. Tu sais, si tu as peur de perdre Primo, ben fine, mais essaye-le. Puis si tu le perds, tu le perds. Est-ce que, écoute, Stéphane, Dobesh, peux-tu faire job? À court terme, là, mettons, début de saison prochaine, Dobesh, peux-tu faire la job?
Je pense qu'il manque du millage dans la Ligue américaine. Non, pas pour moi. Il manque clairement de millage et puis il faut prendre notre temps. T'sais. On dit souvent qu'un gardien de but dans la Ligue américaine, c'est 150 matchs minimum. Et puis, il y a une quarantaine de départs, même pas cette saison. Donc, non, il n'est pas prêt.
OK, parfait. Mais à la limite, si tu as besoin ou quoi que ce soit, si tu échanges Jake Allen puis tu as perdu Primo, il y a toujours un gardien que tu es capable d'aller chercher,
oui.
Un peu d'expérience.
Ah oui, il y en a plein, des Casey de Smith de ce monde.
Ben oui.
Il entraîne partout.
Non, ben, tu sais, l'été, c'est rendu...
une chaise, il y en a un, t'es là, toi.
Ben, c'est parce que l'été, ça ressemble pratiquement à la saison morte de la NFL. Là. T'as une espèce de carrousel là, qui se met en branle, tout ça. Donc, c'est ça. Une fois l'été, ça va. Puis, l'autre chose que tu parles au sujet de Primo qui pourrait jouer davantage après la date limite des transactions. Justement, après la date limite aussi, ben, je pense que le Canadien sentira probablement, si le Canadien est encore pris avec trois gardiens, va vraiment sentir moins de pression de faire jouer Allen parce que là, justement, les transactions sont plus possibles. Donc là, rendu là, je pense que tu dois y aller de façon égoïste, si on veut, avec tes deux jeunes gardiens pour leur donner en masse de millage. Et Jake Allen, ben, c'est tant pis, tout simplement. Puis t'espères juste qu'il va être un bon coéquipier.
Mais il y a des choses qui m'agacent. Tu sais, ça m'agace parce qu'il y a un peu d'aveuglement volontaire. Tu sais, t'as un coach qui est là, qui n'a pas d'expérience, qui essaie de pogner un club, qui essaie de jouer. Là, tu te mets une situation problématique, tu t'auto-tires dans le pied, tu t'auto-jambettes.
Tu t'auto-pelures de bananine.
Exactement. Oh, j'aime ça, j'adore ça. Et après, tu te dis, bah, regarde, on a un j'ai l'impression que c'est pas tant la vérité. On n'est pas dans des situations optimales. Tu sais, on se met pas dans une situation optimale pour essayer de vraiment évaluer qui que t'as parce que tu peux pas le faire. Tes gardiens de but sont là une fois de temps en temps. Montembeau, OK, ça va bien pour lui, mais sinon, tu sais, ça devient difficile de trouver une performance là-dedans.
Ben, je te suis pas. Tu te mets pas en position d'évaluer qui, les gardiens de but ou le reste de l'équipe?
Ben, d'évaluer ton équipe. Écoute, défensivement, c'est déjà assez difficile. Si tes gardiens de but sont pas capables de t'aider, on l'a vu. Habituellement, quand le gardien est ordinaire, le Canadien perd. Faut que le gardien soit bon, tu sais. Fait qu'il faut que tu te donnes des chances aussi de te mettre dans un contexte où t'es capable d'avoir une situation qui semble un peu gagnante. Hey, je suis en train de me pomper, moi, là.
La seule situation favorable pour un des trois gardiens de but, c'est pour Sam. Sam, là, en ce moment, depuis les 16 derniers matchs, il y a le ratio de 2 sur 3, ce qui est un ratio de numéro 1. Et puis, il a parti 10 des 16 dernières. Ça, c'est bon pour lui. Mais si c'est bon pour lui, ça veut dire qu'il y en a deux autres qui payent. C'est ça, le problème.
Exact. Ben, c'est ça. En fait, lui,
il ménage à 3. Quand on faisait la rotation à 3, ben, les 3 survivaient. Mais on disait tous que Sam méritait d'en jouer plus parce que c'était le meilleur des 3. Puis lui, il payait quand on faisait la rotation à 3. Sam payait le prix. Donc, d'une façon ou d'une autre, il y en a tout le temps un qui paye le prix. Dans ce mot juste de système-là.
OK, là, ramenez-moi sur la terre. Après le match, Martin Saint-Louis, dans cette défaite de 7-2 contre les Blues, a dit, tu sais, cette défaite-là, ça avait pas de la lourde. Tu sais, ça ressemblait pas à une varlope de 7-2. Il n'a pas utilisé le mot varlope, c'est moi qui l'ajoute, par pur et simple plaisir. Donc, ça avait pas de l'air d'une défaite de 7-2. Je vais avoir votre point de vue. Guillaume, est-ce que ça va l'air d'une défaite de 7-2, ça?
Ben oui. Je veux dire,
il y a un club qui s'est fait dominer. Là.
Ben, c'est ça, exactement. Okay. Là, je veux dire, si tes unités spéciales sont incapables de faire quoi que ce soit, ben, je m'excuse, mais c'est quand même une bonne partie du match, surtout quand tu prends autant de pénalités que le Canadien. Donc, puis après ça, ben, il y a des choses qui mènent de toute façon au fait que tu prends des pénalités. Là. D'habitude, quand tu domines un match, t'es pas forcé à tout le temps faire des infractions. Donc, non, ça avait tout à fait l'air d'un match de 7-2. Le seul endroit où je peux peut-être rejoindre Saint-Louis, c'est que ça a été 3-1 un bon bout de temps en deuxième période, puis même il y a un moment où le Canadien a menacé une couple de chances de marquer, et tu te dis, bon, ben à ce moment-là, si le Canadien fait 3-2, est-ce que tu as un match? Peut-être. Mais là, regarde, ça n'a pas été ça. Et Saint-Louis a marqué en fin de deuxième, et la chaîne a débarqué à partir de ce moment-là. Donc, je peux comprendre sous cet aspect-là, mais pour le reste, non, c'était bel et bien un 7-2.
OK, fait que donc, tu ne crois pas au renforcement positif de Martin Saint-Louis après le match?
Non.
Simon-Olivier, toi?
Ben, faut que je donne qu'à 5 contre 5, effectivement, le Canadien n'a pas été un désastre. Là, tu sais, j'ai en tête une défaite contre les Sabres de Buffalo à Montréal. Je pense que c'était 5-1 il y a quelques semaines. C'était 6-1. Je veux dire, c'était une horreur. Là. C'était vraiment, tu sais, que Jake Allen avait vraiment été abandonné par son équipe. J'ai pas senti ça. J'ai un peu senti que c'était Jake Allen, senti qu'il avait abandonné son équipe, mais disons qu'il les a pas aidés. Fait que, tu sais, à 5 contre 5, effectivement, le Canadien a tenu son bout. Peut-être été une équipe meilleure que les Blues à 5 contre 5, si on y va d'une manière à très haut niveau. Mais tout le week-end, et j'inclus là-dedans le match contre les Stars, autour du filet du Canadien, ça coûtait pas cher se retrouver devant le filet. Là. C'était complètement, c'était barre ouverte devant d'abord Montembeau, ensuite Allen. Hier, sur le troisième but des Blues, qui a marqué après trois secondes en avantage numérique quand Jaden Struble a été puni. Il y avait trois joueurs des Blues derrière le dernier joueur du Canadien. Mm-hmm. C'est, donc, structurellement, le désavantage numérique, ça fonctionnait pas pantoute, alors que ça avait plutôt bien été contre les Stars. Mais, tu sais, ça ressentait un 7-2. C'est parce que puis je comprends en même temps Saint-Louis. Tu sais, c'est lui qui a l'odieux de qualifier la performance de son équipe à chaud après chaque match, puis les défaites, il commence à en avoir vu beaucoup depuis trois ans. Mais le Canadien...
Puis il était frustré.
Pour plusieurs raisons, méritait de perdre ce match-là.
Oui, ouais, il était frustré.
Il était frustré, là, tu l'as vu, en guirlandant les arbitres. Là,
c'est rare qu'on le voit.
Ah, non, il s'est pogné avec les arbitres. Là.
Il a contesté avec une minute à jouer, alors que le score était 7-2 pour essayer que le but, que je pense que c'est Ilonen ou Pezzetta qui l'aurait marqué, soit bon, alors qu'il a été annulé finalement parce que Kovacevic avait jeté les gants. Je veux dire, ce match-là, il n'y a plus d'enjeu. Arrête, là. Je veux dire, clairement, à Saint-Louis, hier, il n'était pas content de la situation.
Vas-y, Stéphane.
Ben écoute, Martin, je crois pas que ça a l'air d'une défaite de 7-2. Peut-être qu'il faisait allusion justement à la mauvaise performance d'Allen. Peut-être, dans le fond, ce qu'il voulait dire, c'est que si Allen en donne 3 de moins que ce qu'il aurait dû faire, on avait un match de 4-2. Mais encore là, peu importe le score, j'ai jamais senti le Canadien qui avait une chance de rivaliser contre les Blues depuis la première minute de jeu. J'ai jamais senti le Canadien dire « Oh my God, il donne une game aux Blues. » Jamais, jamais, jamais. Donc, ça a-tu l'air d'une défaite de 7-2? Peut-être pas à cause de la performance de Jake Allen, mais il reste que le Canadien n'était pas dans le coup à aucun moment. Et puis, Martin, il va falloir qu'il fasse attention aussi de ne pas commencer à tomber dans la frustration parce que ça va être une fin de saison difficile. Et s'il commence à tomber dans la frustration, mais sa jeune équipe va suivre. Ils vont suivre certains. Et ça, c'est le début de la fin, là, quand on commence à dire qu'on n'est plus là, on n'est plus focusé sur la tâche à accomplir. C'est quand que la frustration embarque. Puis ça va être la job des entraîneurs de faire attention à ça en commençant par eux-mêmes.
Écoute, la frustration, des fois, c'est difficile à pas la voir arriver quand t'as des joueurs qui commencent à performer avec l'équipe, qui vont bien, puis à chaque année, t'arrives à date limite des transactions, tes échanges, tu t'en vas vers le fond tranquillement, pas vite, tu ajoutes des choix repêchage qui sont des projets quasi utopiques. Tu sais, en quelque part, là, t'as beau vouloir aimer le hockey puis comprendre le processus de reconstruction, mais c'est un gars de hockey pareil. Puis un gars de hockey, qu'est-ce que ça veut? Ça veut gagner. T'sais, logiquement, là, tu veux jouer au hockey pour gagner. Je comprends que le hockey mineur, c'est différent, là, mais dans la Ligue nationale, ils sont payés pour ça. Ils veulent gagner. Et je te parlerai même l'ensemble des joueurs sur la glace. Ils sont là pour gagner, les autres. Ils veulent gagner. Mais bref, c'est un long processus. Je prends une grande respiration. Et là, on va être un petit brin positif. On va s'arrêter quelques instants parce que là, au tournoi Pee-Wee de Québec, et non, on ne parlera pas des Pee-Wee. Non, c'est pas ça qu'on va faire. Mais au tournoi Pee-Wee de Québec, Bob Gainey était là. J'espère que ça vous dit quelque chose, Bob Gainey. Bob Gainey a dit la déclaration suivante. D'ici un an ou deux, le Canadien sera une équipe aspirante à la Coupe. Quoi? Un an ou deux aspirant à la Coupe? J'ai hâte d'avoir votre point de vue là-dessus. On s'arrête quelques instants. On est de retour au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 26 avec Guillaume Lefrançois, Simon, Olivier Lorange et Stéphane White. Les gars, Bob Gainey était à Québec, et pas pour le carnaval, mais pour le tournoi Pee-Wee de Québec. Et il est allé d'une petite déclaration sympathique en disant « D'ici un an ou deux, le Canadien sera une équipe aspirante à la Coupe. » Quoi? Je recommence. « D'ici un an ou deux, le Canadien sera une équipe aspirante à la Coupe. » OK. Est-ce que vous croyez ça, Guillaume?
Non. Aspirant pour participer aux séries, oui, pourquoi pas. Si finalement l'équipe réussit à garder ses éléments-là en santé, tout ça, peut-être aspirant à participer aux séries, mais aspirant à Coupe cette année, ça prend du temps, là, oublions pas. Il n'y a pas vraiment d'équipe qui gagne avec un noyau de joueurs de 23 ans. Là, c'est pas ça. T'sais, regardez justement les derniers champions, Tampa, Vegas. Tampa, Colorado, c'est des équipes dont les noyaux étaient rendus à 7-8 saisons d'expérience. T'sais. Donc, c'est pour ça que c'est très, très long, ces processus-là. C'est vraiment ça, je pense, qu'il faut garder en tête. Saint-Louis, avant ça aussi, les Blues, en 2019, même chose, avaient gagné avec un noyau qui était vieux. Des gars qui avaient été repêchés 7, 8, 9 ans plus tôt.
Les Capitals, les Pingouins, on peut reculer.
C'est ça, c'est tout le temps ça. C'est des équipes à maturité qui gagnent et donc qui sont aspirantes à la Coupe Stanley. Donc, j'ai trouvé Bob Gainey a peut-être voulu être gentil avec son ancien club. Là. Je connais pas le contexte là, exact de l'entrevue, mais je pense que non.
OK, Simon-Olivier?
Mais la citation exacte de Bob Gainey en jouant à Montréal, c'est « Je pense que dans un an ou deux, ils peuvent être une équipe qui aura une chance de gagner la Coupe Stanley. » Puis théoriquement, tout le monde a une chance. Fait que, si on le prend très à la base, là, sémantiquement, là, tout le monde a une chance, donc le Canadien a une chance. Je pense que, en tout cas, certainement pas d'ici un an. Puis ce que j'ai trouvé presque que grossier, c'est que Gainey, dans la même entrevue, a donné l'exemple des Canucks de Vancouver en disant « Regardez comment ils ont reviré de bord en un an. » Voulez-vous qu'on passe la formation des Canucks de Vancouver?
Il n'y a pas de Peterson avec le Canadien.
Il y a ben des joueurs des Canucks que le Canadien n'a pas. T'sais, Elias Peterson, qui est un joueur de 100 points. JT Miller, qui est un joueur de 100 points. Quinn Hughes, qui est un des très bons, si ce n'est pas un des meilleurs jeunes défenseurs de la Ligue nationale. Juste là, il n'y a aucun de ces trois-là qui existe chez le Canadien présentement. Philip Roenick, qui est une révélation à Vancouver cette saison. L'année passée, les gens étaient un peu surpris, y compris moi, quand les Red Wings ont échangé, mais ça va très, très bien pour
Brock
lui.
Brock Besser,
qui est toujours très bon. Thatcher Demko, qui a été un très bon gardien de la Ligue nationale il y a 2 ans, plus de 60 départs. Et la liste continue. On vient d'acquérir Elias Lindholm, puis c'est pas un hasard si on a acquis Lindholm, c'est qu'on est justement une équipe qui a justement beaucoup de maturité, beaucoup de bons éléments auxquels on dit, bon, ben on en ajoute un autre très bon. Le Canadien, il n'y a rien des Canucks qui ressemble au Canadien actuel. Donc, dans un an, comme a dit Guillaume, est-ce que ça va aller mieux que maintenant? Ben, on leur souhaite, mais je vois pas du tout une équipe qui peut être dans la discussion pour la Coupe Stanley l'an prochain. Probablement pas dans 2 ans non plus.
Stéphane, ton point de vue là-dessus?
Ben écoute, en passant, pour les jeunes qui nous écoutent, là, Bob Gainey, là, c'est pas juste l'ancien gérant général, là, c'était un des meilleurs capitaines de l'histoire du Canadien, un des plus grands guerriers de l'histoire du Canadien. C'était un gars qui jouait...
Il jouait avec les épaules cassées, il était là.
Il jouait avec les épaules à terre.
Un vrai glorieux.
Et puis c'était juste en passant, là, pour ceux qui ne savent pas, Bob Gainey, qui était toute une carrière dans les années 70, début des années 80. Mais Bob Gainey, son commentaire, moi aussi, j'étais totalement en désaccord. Et puis, 2 ans, c'est vite, ça. Et puis, mon problème, c'est qu'en ce moment, là, dans 2 ans, là, j'ai sur ma liste, devant moi, là, j'ai 9 joueurs seulement sur l'édition. Puis, en incluant Kirby Dack, là, j'ai 9 joueurs qui, d'après moi, vont être sur cette équipe-là dans 2 ans. Ça veut dire là, qu'il nous manque... il nous en manque 12, 13. Il nous manque 13 joueurs à ajouter cette équipe-là d'ici 2 ans pour être compétitif. C'est du stock. C'est du stock.
Hey, c'est intéressant, Stéphane. Sais-tu quoi? On va faire ça, là. On va s'arrêter quelques instants juste pour voir, tu sais, parce qu'on a beau dire, il n'y a pas de chance pour le Canadien, là, de suivre un peu la pensée de Bob Gainey. Par contre, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a comme valeur sûre. Qu'est-ce que t'as sur ta liste? Je sais que Simon-Olivier t'écrit un papier également sur la ligne de centre du Canadien. Donc, on va commencer avec la liste de Stéphane. Après, Simon-Olivier, je veux que tu nous parles de la liste de centre. Vas-y, Stéphane, nomme-nous ces joueurs-là qui seront, selon toi, la pierre angulaire.
Les valeurs sûres. Des valeurs sûres. En ce moment, de ceux qui sont à Montréal avec le Canadien, incluant Kirby Dack, j'ai bien sûr le premier trio, Caulfield, Suzuki, Slavkovski, on en a 3. J'ai Alex Newhook qui va être là dans 2 ans, ça c'est certain. Oui. J'ai Kirby Dack. Oui. Ça me fait 5 attaquants. C'est les seuls que je vois qui sont sûrs. Un gars qu'Anderson, c'est peut-être plus là dans 2 ans. Evans, peut-être pas. Un Pearson, on oublie ça. Harvey Pinard, peut-être que non. Ça veut dire qu'il est borderline. Et puis, donc, ça, c'est mes valeurs sûres. Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Newhook, Dak. Et à la défense, en ce moment, j'ai Matheson, Goulet et Strouble. Ça, c'est mes valeurs sûres. Savard ne sera plus là dans 2 ans. Il va être trop âgé. Jack Eye, mais là, on commence à hanter. Il n'y a rien de sûr. C'est un borderline en ce moment, selon l'organisation. Donc, j'ai 3 défenseurs sûrs. Je suis rendu à 8. Et mon 9e, c'est Samuel Montembeau qui va être là dans 2 ans. Comme numéro 1, je ne sais pas, mais il va être là.
OK, écoute, ça ressemble sensiblement au choix que à peu près tout le monde a fait. Maintenant, allons voir la ligne de centre. C'est quoi? Y a-tu de l'espoir au centre chez les Canadiens?
Ben en fait, mes valeurs sûres à moi de la ligne de centre ont été dans la liste de Stéphane. J'en vois pas vraiment d'autres. Et j'insiste, là, je dis pas qu'il y a pas de bons joueurs dans le système, mais les valeurs sûres du Canadien à la position de centre. Puis c'était ça l'essence de ma fine analyse le jour où Sean Monnet a été échangé. C'est que Le chantier de Kent Hughes, à mes yeux, le chantier à court terme et urgent, c'est la ligne de centre. Parce que là, bon, Kirby Doc va finir par revenir. Suzuki et Doc, après ça, on peut s'ostiner toute la vie. Est-ce que c'est un assez bon duo premier, deuxième centre? Mais dans tous les cas, c'est un bon duo qui peut aider le Canadien. Après ça, tu sais, Jake Evans va avoir 28 ans en juin. Il devient joueur autonome en 2025. Je pense que le Canadien a vu ce qu'il avait à voir de lui. Peut-être qu'il va appartenir à l'avenir du Canadien dans 2 ans, dans 3 ans, dans un rôle de soutien, mais tu sais, ce sera pas. On va savoir quoi s'en est. Christian Novorak, pour moi, n'appartient pas à l'avenir du club. Après ça, on tombe dans le système. À Laval, présentement, il n'y a pas vraiment. Là, on a fait signer un contrat à Brendan Gignac. S'il appartient à l'avenir du club, ça va être une belle surprise. Après ça, on tombe Riley Kidney, on ne sait pas. Yann Michak, on ne sait pas. Ce serait Philippe Méchard et Owen Beck. Et pour moi, c'est des projets. C'est deux gars qui jouent encore dans le junior, donc ils ont beaucoup de temps. Owen Beck, les analystes, ils semblent dire que ça pourrait être un potentiel troisième, quatrième centre. Donc, c'est une longue shot. Puis Méchard, moi, il y a eu un bon début de saison. Je pense qu'il était blessé cette saison en Ligue d'Ontario. Il avait un très bon début de saison. Mais de ce que j'ai vu au camp cette année, s'il pourrait être un bon joueur à Ligue nationale, il en est très loin de ça. Donc, tu sais, Kent Hughes, à peu près 45 000 choix de repêchage pour les deux prochaines années. Faut se renforcer. Faut que le Canadien réussisse à se renforcer au centre, que ce soit avec un joueur de centre très établi, que ce soit un vrai vétéran, un peu à la Sean Monahan, mais tu sais, idéalement mieux que Sean Monahan. Pas un joueur qui a un long historique de blessures, pas un joueur nécessairement vieillissant, mais un vétéran de 25-27 ans prêt à aider le club tout de suite, ou un jeune joueur de la tranche d'âge de Caulfield, peut-être 22-23 ans, qui justement est sur la pente montante, un peu comme Kirby Doc l'a été l'an passé. Mm-hmm. Mais j'insiste, c'est un chantier très prioritaire parce qu'il n'y a pas grand-chose présentement.
Je pense que la seule chose qui pourrait sauver et accélérer ça, c'est Alex Newhook qui aura droit à une addition au centre d'ici la fin de la saison, par la force des choses. Donc c'est sûr que lui, moi le premier, là, je le voyais de plus en plus comme un allié. Je pense que le Canadien le voyait comme ça aussi. Cela dit, il y a vraiment aucune option comme troisième centre à court et moyen terme. Tu sais, tantôt, quand je parlais du temps que ça prend pour bâtir une équipe championne, c'est aussi la position de troisième centre est super importante aussi dans la Ligue nationale pour les équipes championnes. Puis, tu sais, passer par exemple quand les Capitals de Washington avaient gagné en 2018, leur troisième centre, c'était Lars Eller. Ben, Lars Eller, ça y en a pris du temps avant de devenir un bon troisième centre. T'sais, oui, il a été troisième centre toute sa carrière.
C'était la job de Jordan Staal. Ben, il l'a fait avec les Penguins.
Ben, c'est ça. Exact. Puis Staal, il est devenu bon à un jeune âge, mais Staal, c'était un très haut choix au repêchage qui avait un potentiel très fort, c'est correct. Mais Lars Eller, justement, il a été troisième centre à Montréal, mais nous, on a vécu, et j'ai le goût de dire, subi son processus de prise d'expérience et de maturité, parce que c'est pas facile comme travail. Puis si tu veux une équipe qui va loin, si tu veux aller à la guerre, ben, ça t'en prend un très bon troisième centre, puis un troisième centre qui a de l'expérience. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, ça va probablement passer par le marché des transactions ou quelque chose comme ça, parce que à court terme, mettons qu'on dit que ça va être Owen Beck, le troisième centre du Canadien un jour, mais il est probablement à 6 ans là, t'sais, d'être un très bon troisième centre qui maîtrise bien son travail.
Donc, fait que là, je vais juste faire la nomenclature. On disait Suzuki, Dak, Beck et Jake Evans, mettons. OK, on dit ça. Mettons que c'est eux, là, les quatre, là. Ça, c'est un club qui peut se battre pour être à 4-6 points des séries, mais tu rentres pas en série avec ça puis tu dis « Hey, on va gagner cette année, là. On n'est pas là. » Fait qu'on est obligé. Kent Hughes et Gorton ont de la job à faire, là. Clairement, il faut que ça se passe un moment donné, là, parce que sinon, ça va être longtemps. Là.
Oui.
OK.
C'est tellement bien dit, j'ai rien à ajouter.
OK. Oui, Stéphane, vas-y.
Oui, exactement. Et puis, ça, c'est, on pense. Tu sais, au Lundbeck, on pense. Puis avec raison. Mais il l'a pas fait encore. Fait que, tu sais, c'est tout, on pense. C'est pour ça qu'on pense que, moi, je pense qu'on gagnera pas dans 2 ans. Et puis, mais comme que j'ai dit tantôt, hein, au pire aller, en ce moment, là, on a 10 joueurs que, d'après moi, ils vont encore avec l'équipe dans 2 ans. Il reste d'ouvrage à faire, puis pas à peu près. Comme tu viens de dire, Jérémy, Gorton et Hughes ont encore beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Si on peut colmater une couple de postes, de trous, écoute, après ça, mais là, ça va être intéressant de pouvoir de dire, bon, mais OK, là, on peut chercher à enrober ce noyau-là qui est en devenir. avec des agents libres ou des transactions pour des joueurs plus établis dans la ligue. Mais on n'est pas rendu là en ce moment.
Alors, on souhaite bonne chance à Kent Hughes cet été pour le prochain repêchage.
J'allais juste ajouter ce que tu disais aux valeurs sûres. Tu sais, je pense qu'on arriverait pas mal tous aux mêmes valeurs sûres là, que Stéphane a mentionné. Là. J'étais assez d'accord avec sa liste. L'autre truc, c'est que dans la relève, est-ce qu'il y a vraiment de grosses valeurs sûres, justement des joueurs que tu sais qui vont être vraiment des joueurs rapidement des joueurs d'impact dans ce noyau-là? Ben c'est ça, je suis pas sûr. Tu sais, David Reinbacher, combien de temps ça va prendre avant qu'il soit.
Je l'avais même pas mis sur ma liste.
Ben c'est ça, mais ben, non, mais ben, exact, ouais. Mais on peut pas le mettre de toute façon. Je dis, il va arriver chez les pros probablement quelque part en mars. Mm-hmm. On devine dans la Ligue américaine en premier. Combien de temps ça va lui prendre d'abord à s'adapter, puis ensuite de ça, à jouer dans la Ligue nationale, puis ensuite à jouer dans un rôle top 4. Ça peut être un long processus pour un défenseur. Lane Hutson, super beau potentiel. C'est fabuleux de le voir jouer à l'université. Qu'est-ce que ça va donner dans la Ligue nationale? Ben, on le sait toujours pas. Logan Mailloux, ça va bien à Laval. Là, on en parlait tantôt, ça va super bien. Mais ensuite de ça, on le sait, son problème, ça a toujours été des lacunes défensives. De quoi, à quoi ça va ressembler une fois dans la Ligue nationale, on le sait pas non plus. Donc, c'est pour ça que c'est très dur, même dans la relève, de situer ces espoirs-là et à combien de temps ils sont de pouvoir occuper un rôle quand même important à Montréal.
Donc, je répète, beaucoup de boulot pour Kent Hughes et Jeff Gorton. Ben,
Autre chose à répéter, c'est encore, ça c'est pour nos valeureux partisans, c'est encore patience. C'est plate là, mais c'est encore, soyez patient. Le monde pense que là, c'est parce qu'on était patient 2 ans, on est proche. Non, on n'est pas proche. Encore la patience.
175$ l'étiquette. Sois patient. Sois patient, mon ami. C'est pas tout de suite que ça se passe. On va s'arrêter quelques instants. Pour retour, on va se parler de Morgan Riley. L'homme au double échec qui, en fin de match, décide pour punir un peu Riley Craig, qui était allé d'un lancer frappé pour marquer un but dans un filet désert. Va passer devant le comité de la discipline. Je vais avoir votre point de vue là-dessus. On s'arrête quelques instants. Restez. On est de retour au balado Sortie de zone, saison 5, épisode 26, avec Guillaume Lefrançois, Simon-Olivier Larange et Stéphane White. Les gars, Morgan Riley a décidé de faire un homme de lui-même, de prendre son bâton et de frapper dans le visage de quelqu'un. C'est une fausse bonne idée parce que le comité de la Ligue nationale a dit « Mon cher ami, tu vas venir nous rencontrer à New York ». Et là, dans notre façon de gérer la sécurité des joueurs dans la Ligue nationale étant un peu archaïque, ça veut dire si t'es sur place, c'est 6 matchs et plus. Si t'es au téléphone, c'est 5 matchs et moins.
Ils sont pas obligés de donner 6 matchs ou plus. Ça leur donne la possibilité de donner 6 matchs ou plus.
Mais historiquement, quand tu te déplaces, habituellement, c'est ça. Bon. Je veux avoir votre point de vue là-dessus. Simon-Olivier, qu'est-ce que t'as pensé de ce geste-là? Parce qu'il y en a du côté de Toronto qui disent que c'était correct. On a bien fait les choses parce que le joueur des Sénateurs a été arrogant.
J'ai trouvé ça très chargé, ce que t'as dit en ouverture de segment, parce que tu dis, Morgan Riley qui est allé donner un coup de bâton au visage. Tu sais, Morgan Riley est allé punir un joueur pour un geste complètement inacceptable qui a été posé, là.
Un lancer frappé
dans un filet désert, dans un match qui était terminé, alors que Morgan Riley patinait même pas pour aller chercher, parce que selon un autre angle, alors qu'on voit très clairement Ridley Gregg qui a le bâton dans les airs pour tirer, Morgan Riley n'est pas en train de patiner, il est en train de le regarder faire. C'est un narratif qui, en tout cas, les réseaux sociaux en ont regorgé pendant le week-end, et même ce matin, Sheldon Keefe, l'entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto, qui a un peu laissé entendre que la Ligue avait un préjugé défavorable envers les Leafs, que c'était toujours pire quand c'était à Toronto. Pour moi, c'est un délire complet ce qui s'est passé ce soir-là. Moi, j'ai eu d'abord aucun problème avec ce que Greg a fait. Je comprends que les Leafs n'étaient pas contents et je comprends que Greg jusqu'à un certain point, il y a eu à répondre de ça, parce qu'il a quand même pris la décision de marquer ça, comme ça. Exactement. Je veux dire, fais-le ou fais-le pas, mais il va avoir une suite à ça.
C'est ça, t'es arrogant, mais sois prêt à payer.
Est-ce que la suite, c'est, mettons, jusqu'à acheter les gants, même si je j'aime pas ça, etc. Je sais pas c'est quoi la suite, mais la réponse de carrément partir à sa poursuite puis sacrer un double échec d'en face, pour moi, c'est beau, ou à la tête, c'est inacceptable. Et après ça, toute la manière de légitimer ça, ce matin, l'intellectuel de centre-gauche, Ryan Reeves, qui disait dans le vestiaire des Leafs encore, et je le cite, il dit, si on revient au moment où, quand je suis arrivé dans la Ligue nationale, Greg sera encore étendu sur la glace à ce moment-ci. C'est, oui, ce que Morgan Riley a fait, c'est approprié. Et je pense que les jeunes de la Ligue, je vois pas comment les jeunes de la Ligue peuvent penser que c'est approprié de faire ce que Greg a fait. Êtes-vous après reviré fou, là? Il a fait un lancer frappé dans un filet désert. Il a pas attaqué que personne. Et là, on légitime complètement un geste d'une violence terrible qui aurait pu avoir des conséquences. Et terrible aussi. Mm-hmm. Mais là, Greg a pas été blessé. Alors, on a l'air de trouver que c'est pas grave, mais j'espère que Riley va être suspendu longtemps parce que, ben, je veux dire, c'est pour plein de raisons, pour le geste lui-même, pour le message que ça envoie. Et voilà, je trouve toute la manière d'excuser Riley, pour moi, il y a aucun argument qui m'atteint. Pour moi, c'est inacceptable.
Juste mentionner qu'il y a jurisprudence un peu là-dedans. On se souviendra en 93, Dale Hunter était allé d'un double échec sur Pierre Turgeon.
Oui.
À l'époque, Hunter jouait pour les Capitals de Washington, Turgeon pour les Islanders de New York. Conséquences différentes sur Turgeon était blessé à l'épaule, fracture des côtes également. Et
Dale Hunter probablement donné un petit coup de pouce aux Canadiens au tour suivant.
Effectivement, 21 matchs de suspension pour Dale Hunter.
Oui.
Je vais avoir ton point de vue, Guillaume. Puis Stéphane, je sais, là, tu frétilles, on s'en vient. Je vais avoir ton point de vue dans quelques instants, Guillaume.
Ben, premièrement, je n'étais pas non plus un grand fan de ce que Greg a fait. Dans le sens que, bon, c'est sûr qu'il y a une certaine forme de provocation quand tu sais comment fonctionne la Ligue nationale. Donc, c'est sûr que ça allait générer une réponse de l'autre côté. Et, tu sais, à situation inverse, si Greg fait ça, puis personne des Maple Leafs fait rien, ben là, la discussion à Toronto, c'est probablement, ben, les Maple Leafs sont mous, puis ils ont pas de colonne, puis ils ont pas de caractère, puis ils se tiennent pas. Alors, je comprends tout ça. Après ça, quelle réponse tu fais, par contre? Est-ce que t'aurais pas, tu sais, est-ce que tu peux juste aller le voir, puis lui parler, le pousser, peu importe. Il y a
une gradation. Le combat, va-t'en devant lui, puis dis garde, ben, on y va.
J'aurais pas plus aimé un combat, mais je veux dire, il y a des façons de répondre quand même, puis ça reste que Greg, justement, a pas risqué la sécurité de personne. Là. Il a pas essayé de blesser qui que ce soit, il a juste tiré dans un filet désert. Donc oui, une provocation. Alors, tu peux répondre, je pense, tu peux aller voir, c'est légitime d'aller le voir, mais là, aller le voir, t'es pas obligé d'aller le voir avec ton bâton dans les airs, carrément. Essayer de le blesser. Mmh. Donc, c'est ça que j'ai pas aimé. Là. Tout est dans la nuance. Là. Alors,
j'ai réécouté le match juste pour m'assurer, savoir qu'est-ce qui s'est passé avec
ça. Ça a brassé toute la soirée.
Qu'est-ce qui s'est passé avec ce gars-là pour que lui décide de faire ça comme geste? T'sais, parce qu'il voulait remettre quelque chose aux Leafs de Toronto. En troisième, il reste à peu près 4-5 minutes. Greg est devant le filet. Je te dis, là, Austin Matthews, c'est le festival du double échec en arrière de la tête à Craig. Il est devant le filet. Il se fait maganer. Et là, tu vois, le joueur des Sénateurs qui regarde l'officiel en disant « C'est quoi, tu donnes pas de punition parce que c'est Austin Matthews qui est là », il se fait brasser le pompon. Fait que donc, je me suis dit, c'était peut-être ça en réaction pour dire « Garde, vous m'avez brassé, merci, bonsoir, je lance dans le filet. Je veux pas justifier, je pense que tu fais pas ça dans la vie, t'as d'autres choses à faire. » Tu sais, des gars, des fois, c'est émotif, faut que tu fasses attention à ça, là, mais clairement, j'ai vu un certain crescendo à travers ça.
Sinon, les Leafs, gagnez donc ce match-là.
En plus,
les Leafs, là,
en plus.
C'est notre collègue Mathias Brunet qui a publié un bon billet là-dessus ce matin, que là, toute cette fin de match-là, ça a été un beau shoot boucan pour faire oublier que les Leafs, ça va pas bien. Là.
Mm-hmm.
Ils gagnent pas de match présentement. Et je veux dire, d'en être rendu là, en plus, de que leur meilleur défenseur, peut-être leur seul vrai défenseur, aille une bulle au cerveau puis décide d'aller attaquer un autre joueur, c'est le fameux l'arbre qui cache la forêt.
Ouais.
Qui, tu sais, les problèmes sont nombreux à Toronto. Fait que là, parlez de ça, là, mais après ça, réglez donc vos problèmes. Ouais. Je pense que ça va aller mieux.
Et si tu perds Riley pour 6 matchs, comme tu dis, sachant son importance dans cette défense-là, ça
alors
pas
qu'ils
mieux.
Sont la dernière équipe qualifiée pour les séries présentement,
ça ira pas mieux.
Fausse bonne idée. Stéphane, ton point de vue?
Ben, moi, je vois beaucoup de frustration du côté des Leafs. Ça cache pas rien que juste le fait que, moi aussi, là, Greg, écoute, là, il n'y avait pas besoin d'en mettre autant que ça. Là. C'était un petit peu arrogant.
Ouais.
Arrogant. Mais écoute, c'était pas quand même, c'est pas la fin du monde. Et puis, la façon de répondre, ça aurait été d'aller le voir, puis d'y parler, puis de dire, écoute, mon gars, une carrière assez longue, on va s'en souvenir. Et puis de se servir de ça plus tard pour dire, regarde, vous rappelez-vous les boys, le petit maudit là, qui nous a ri de nous autres le dernier match, même si c'est le dernier match de cette saison, là, il veut dire, ils vont jouer ensemble en quelque part. Puis c'est d'y lancer le message qu'on n'est pas content. Mais de là, là, il donnait un coup de bâton comme ce qu'il a fait, c'est dangereux. Puis Riley, c'est pas. Il n'a pas cette réputation-là, mais ça me démontre que les gars ont beaucoup de pression à Toronto, puis que la frustration commence à embarquer. Et puis déjà, là, comme tu dis, là, on bataille pour faire des séries, là, c'est incroyable. Et puis, il y a beaucoup de pression à Toronto, mais c'est pas une raison pour faire qu'est-ce qu'il a fait là. Mm. Puis écoute, non, aucune raison, mais faut que tu lances un message à Greg, mais tu peux rien qu'y parler.
OK, hey, je veux juste ajouter quelque chose.
Au pire, tu me dis, bon, ben, OK, t'es-tu prêt à répondre de ça? Et puis, go. Mais encore là, tu
OK, je veux juste rajouter quelque chose.
C'est rien de la frustration.
Les sénateurs d'Ottawa sont coquilles, par contre. Ils sont coquilles. Kachuk est coquille, Stuzla est coquille. Là, ils font des gestes des fois. Puis, souvenez-vous quand Jacques Martin disait on a besoin d'aller chercher des pros, des gars qui ont l'expérience dans la Ligue nationale.
Ouais.
C'est peut-être pour calmer le jeu un peu aux jeunes vedettes des sénateurs qui emmènent large, puis il y a de l'attitude là-dedans. Ouais. Là.
Mais Toronto est coquille aussi. Il y a une arrogance en autour de ce club-là quand même. Et puis, c'est deux clubs qui mais il reste que faut que tu contrôles tes émotions, puis c'est pas une raison de faire un coup de savate, un affaire comme ça, même si Kachuk est cocky, Stuzla est cocky, un petit peu, ben beaucoup de monde est cocky. Ça reste que c'est pas une raison pour faire ce qu'ils ont fait.
Oh, j'aime ta maturité. Oh, Stéphane, j'aime ça, mon Dieu. T'es la sagesse de ce balado. OK, hey, les gars, on va terminer avec Marc-André Fleury qui a été célébré du côté de Minnesota, évidemment, pour être maintenant le deuxième gardien de but avec le plus grand nombre de victoires de l'histoire. Mais tout ça a amené une conversation interne, puis je me suis posé la question, tu sais, je regardais... OK, premier, c'est Brodeur à 691 victoires avec 1266 matchs. Le deuxième, Fleury, avec 553 à 1009. Après, t'as Roy à 551 à 1029 matchs. Après, t'as Luongo à 489 à 1044 matchs. Un gardien de but de 1000 matchs dans la Ligue nationale, c'est-tu quelque chose qui existe encore? Il va-t-il avoir encore un gardien de but, selon vous, qui va garder les buts 1000 matchs? Guillaume?
Ça va être difficile. Je suis en train de regarder. Premièrement, je pense qu'il faut regarder seulement les gardiens actifs parce que je vois vraiment pas quel gardien qui a pas encore commencé sa carrière et qui va se rendre là parce que on le dit souvent, mais les saisons même de 60 matchs, c'est rendu l'exception. Alors, à coup, tu sais, pour faire des chiffrons, mais tu sais, simplement des saisons de 50 matchs, ça t'en prend 20 pour te rendre à 1000.
C'est long, là.
Donc, je veux dire, premièrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu rentres à 20 ans, tu finis à 40 ans, tu as joué 50 matchs par année, sans être blessé, sans lockout, sans pandémie, sans rien de tout ce qui peut arriver. Et rentrer à 20 ans en partant, c'est ce qui est pas non plus donné à beaucoup de joueurs. Tu sais, si on regarde actuellement Connor, parmi les gardiens actifs, parmi les meneurs, ceux qui sont les plus jeunes, ben, t'as Connor Hellebuyck qui approche les 500 matchs et il y a 30 ans, il va avoir 31 ans au mois de mai. Alors, est-ce que Connor Hellebuyck peut encore jouer 10 ans à 50 matchs par saison?
Tu sais, t'as Vasilievski qui en a quoi? 4,53. Chesterkin, ça fait quoi? 4 ans qu'il est là, Chesterkin, à peu près? Ben,
exact.
191.
Mais tu sais, l'affaire, c'est que maintenant, t'as des gardiens, justement, comme Chesterkin, comme Sorokin, qui arrivent aussi plus vieux parce que, c'est ça, ils sont formés quelques années en KHL, c'est des projets à long terme, puis là, ben, ils arrivent à 23, 24 ans. Alors, eux, ça va être encore plus difficile de se rendre à 50, à 1000 matchs. Donc, je vois vraiment pas dans la conjoncture actuelle.
Ben, en fait, pour renchérir sur ce que Guillaume dit, j'ai fait une compilation rapide. Dans la décennie 2000, il y a 110 fois, il y a eu 110 gardiens ont eu 60 départs et plus. Mais tu sais, quand je dis un gardien, mettons Martin Brodeur, pour l'avoir fait deux fois. Là. Donc, il y a eu 110 occurrences de 60 départs et plus. Dans la décennie 2010, il y en a eu 84. Probablement que ce serait un peu plus élevé que ça, mais parce qu'il y a eu la saison écourtée 2012-13
C'est
de la pandémie, exact. Fait que, voilà. Mais en 21-22, 22-23, qui sont les deux dernières saisons complètes de la Ligue, il y a eu 12 occurrences. Donc, ce qui veut dire sur une décennie, à peu près 60. Donc, je récapitule, 110, 84, 60, c'est une tendance qui est complètement à la baisse. Et une des raisons de ça, c'est que c'est positif, c'est qu'il y a plus de bons gardiens qu'avant. Il y a plus de bons gardiens qui peuvent prendre des charges de travail qui sont pas, tu sais, des figurants, là, comme on pense la fin de la carrière de Curtis Joseph derrière Mika Kiprusov à Calgary quand il gardait 5 matchs par année. Là. Donc, non, moi aussi, je pense pas. Tu sais, on parlait de Vasilevski, quand même rendu à 29 ans, lui aussi, un gros historique de blessures. Les gardiens aussi qui vieillissent subissent des chirurgies majeures. On pense à Pecorine avant sa retraite, à Carey Price, évidemment. C'est une position qui est drainante pour le corps, et de plus en plus à cause de la nature de la game qui évolue et qui est de plus en plus difficile pour les gardiens. Et non, je pense pas qu'on va revoir ça des 1000 matchs comme Marc-André Fleury.
Stéphane, comment tu vois ça, toi?
Bon, moi aussi, on ne reverra pas ça pour plusieurs raisons. Premièrement, les gardiens de but, jouer des 60 matchs, ça va être de plus en plus rare, dû surtout à la cédule qui qui est très compressé maintenant, tu sais, depuis qu'on a les joueurs ont une semaine de vacances par année, plus la pause du match des étoiles, et après ça, l'année prochaine, ça va être la Coupe des quatre nations, après ça, ça va être les Olympiques. Donc, ça fait que la cédule est très compressée et c'est très difficile pour un gardien de but de jouer 60 matchs et plus. Ça, c'est la première des raisons. Et l'autre chose, c'est que les techniques des gardiens de but aujourd'hui sont très demandantes au niveau des hanches et des genoux. Très demandantes. Donc, de jouer 1000 matchs, là, faut que tu sois une génétique incroyable d'éviter les blessures et surtout avoir une flexibilité incroyable au niveau justement des genoux et des hanches. C'est très, très demandant. Et puis, c'est pour ça que c'est difficile pour un gardien de but. Martin Brodeur, il n'avait pas cette technique-là. Martin Brodeur jouait souvent comme un petit peu la vieille école où il reste debout longtemps. Marc-André Fleury a une génétique assez spéciale où même à son âge, tellement flexible à éviter les blessures majeures. Je vois pas un autre gardien de but faire ça. C'est trop demandant physiquement et puis et mentalement de jouer beaucoup de matchs par année. Donc non, moi je vois pas. Je pense pas de revoir ça de mon vivant, moi, là, un gardien de but qui va atteindre le 1000 matchs.
Et quand même, 1266 pour Martin Brodeur. Il a beau rester debout, là, mais félicitations ouais. À lui. Puis trouver le moyen d'être spectaculaire et kicker de rondelle une fois de temps en temps. Old school, ça fait toujours du bien. Hey, ce fut un plaisir encore une fois. Guillaume Lafrançois, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, JR.
Simon-Olivier Larange, toujours le fan. Merci beaucoup, Simon-Olivier.
Mais c'est le fun. Merci à toi.
Et Stéphane White, quel plaisir. Merci beaucoup, Stéphane.
Merci les gars, bonne semaine.
Voilà ce qui conclut le balado sortison d'épisode 26. C'est-tu ça 26? On nous a rendu aux alentours. Épisode 36, ça va être mieux comme ça. Et nous, on se parle vendredi prochain, le 16 février.